Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine à la bonne heure, magazine du midi, depuis Briançon ce mardi. Et nous accueillons aujourd'hui une institution du Briançonnais, une association qui a plus de 30 ans, qui agit pour l'intégration et l'environnement. Il s'agit d'Environnement et Solidarité. Engagée depuis 1993 pour le Grand Briançonnais, l'association, nommée à ses débuts Naturoscope, développe des actions en faveur de l'environnement, actions mises en œuvre principalement par la voie des chantiers d'insertion. Aujourd'hui, son champ d'action couvre l'ensemble des trois communautés de communes du pays du Grand Briançonnais, des Écrins et du Quéra. Et nous avons le plaisir de recevoir le co-directeur de l'association Loïc Thomas et une administratrice Monique Bernade. Bonjour.
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 Alors, avant de parler d'environnement et solidarité, on va faire une petite digression littéraire puisque toutes les semaines, nous avons une chronique littéraire avec la librairie Voyage au bout des livres. Est-ce que vous aimez lire ?
Oui, ben, pour ma part, tout à fait. En plus, je m'occupe d'une bibliothèque communale à Saint-Martin-de-Querrières. Donc, en effet, je suis passionnée par les livres.
Et vous, Loïc ?
Oui, j'aime beaucoup lire.
Est-ce que vous avez un livre là qui vous viendrait un coup de cœur, un livre de chevet que vous appréciez particulièrement ?
Le bord du monde est vertical, par exemple.
Incroyable, c'est pile ce que j'allais dire.
C'est vrai ? Ah ben voilà.
Alors, je vais en choisir un autre.
On est en phase.
Et c'est celui, je dis actuellement, c'est Son odeur après la pluie.
D'accord, je ne connais pas. Eh bien, à découvrir alors, et on écoute tout de suite la sélection d'Anaïk de la librairie Voyage au bout des livres.
La sélection de la librairie Voyage au bout des livres.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la chronique littéraire de la librairie Voyage au bout des livres. Aujourd'hui, la librairie croule sous les arrivages de la rentrée littéraire, donc je reste sur quelques livres qui étaient là bien avant, le temps de retomber sur nos pieds et de pouvoir vous présenter toutes les nouveautés. Pour les enfants, aujourd'hui, j'ai choisi le livre Mon chemin de Jana Curl, c'est aux éditions Kiman. C'est l'histoire d'un escargot. Alors cet escargot vit sa propre vie, son chemin, et apprend aux enfants qui lisent ce livre que ce chemin peut être semé d'embûches, peut tourner en rond, on peut avoir parfois l'impression qu'il ne mène nulle part, que c'est ok de demander de l'aide pour traverser une rivière ou un océan ou même parfois une flaque. C'est un livre qui est plein de douceur, plein de bienveillance et qui permet aux enfants d'apprendre à suivre leur propre voie malgré les camps, dira-t-on. Ensuite, je vous présente le dernier tome de Dargo, chez Dargo, de Charlotte Impératrice. Ça s'appelle 60 ans de solitude, c'était la bande dessinée de Nuri et de Bonhomme sur la vie de l'impératrice Charlotte, envoyée au Mexique par Napoléon avec son empereur afin d'y résoudre la situation politique là-bas. C'est un livre, évidemment, inspiré de faits réels, mais qui garde une grosse liberté historique. Pour tous les passionnés d'histoire, c'est absolument génial. Pour celles et ceux qui aiment la bande dessinée, les dessins de Bonhomme et le scénario de Nuri sont absolument incroyables. On se fait complètement avoir et on a l'impression d'y être. Alors, ce dernier tome est assez sombre. On sent le déclin de cette dynastie et les implications psychologiques que ça va avoir pour la personnage principale. Ensuite, toujours dans des joyeusetés, en livre de poche chez Point, je voulais vous reparler du livre de Dima Abdallah qui s'appelle « Mauvaises herbes » qui était paru d'abord aux éditions de Sandrine Vespizer. C'est un livre, je vous en dirai que très peu de mots, c'est l'histoire d'une relation entre un père et sa fille, ça se passe à Beyrouth en 1983, puis ensuite à Paris, et on suit vraiment la relation entre ces deux personnages dans un monde qui ne veut pas d'eux, ce sont des mauvaises herbes. J'hésite à vous en dire plus. Et découvrez la langue extraordinaire de ce roman. Et parce que c'est quand même la rentrée littéraire, je voudrais quand même vous parler des éditions Des Paysages qui viennent de sortir leur tout premier ouvrage, leur toute première collection. C'est du coup une collection dirigée par l'autrice québécoise Gabrielle Filto-Chiba Et c'est elle qui est l'autrice de ce premier roman. Ça s'appelle Louvent Juillet. La collection Animal va présenter plusieurs auteurs et autrices dans leur rapport à l'animalité et au monde sauvage. Et évidemment, cette autrice va nous parler de sa chienne, mi-coyote, mi-chienne, et du rapport qu'elle entretient avec elle. C'est une histoire d'amour envers son animal, d'un lien puissant et profond, d'une protectrice et à la fois d'une compagne d'aventure. C'est vraiment sublime, que vous soyez amateur, amatrice de canidés ou pas du tout. En tout cas, la langue de l'autrice est vraiment exceptionnelle et on sent qu'elle avance de plus en plus vers une littérature qui lui est propre. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour découvrir vraiment toutes les nouveautés qui sont arrivées.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été,
nous sommes avec Loïc Thomas, co-directeur de l'association Environnement et Solidarité, et Monique Bernade, administratrice, association en faveur de l'environnement, qui œuvre à travers notamment des chantiers d'insertion depuis plus de 30 ans. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Loïc Thomas et Monique Bernade, quelle est votre histoire personnelle avec cette association ?
Alors, pour ma part, je suis venue au moment de ma retraite sur le territoire, que je connaissais très bien auparavant d'ailleurs. Et il se trouvait qu'il y avait la ressourcerie dans le village où j'habite, à Saint-Martin-de-Carrière. Donc j'y suis allée, j'ai découvert un peu tout ce qui se passait, j'ai vu beaucoup de livres justement, pas forcément très bien triés, donc je me suis proposée pour donner un coup de main. Et puis j'ai pris contact avec l'association et je me suis dit, ben, ce qui se passe c'est formidable, donc je vais m'y engager.
Jusqu'à devenir administratrice.
Voilà, absolument.
Et vous Loïc ?
Eh ben moi je suis originaire du Briançonnais, donc j'ai toujours vu cette association dans le paysage. J'ai de nombreux proches qui ont travaillé par le passé. J'ai été usager de la ressourcerie et ensuite j'ai pu obtenir un emploi d'encadrant technique à la ressourcerie. Et de fil en aiguille, au fil des années, maintenant je suis devenu co-directeur pour essayer de faire perdurer encore cette association.
Et vous savez combien de temps que vous avez ce rôle ?
De co-directeur, ça fait 2 ans, et sinon ça fait un peu plus de 11 ans que je suis dans l'association.
Quand même. Et vous, Monique, ça fait combien de temps que vous êtes rentrée en tant qu'administratrice ?
Eh bien, il y a quasiment une dizaine d'années. Voilà.
Une dizaine d'années. Donc on va pouvoir revenir sur l'histoire de cette association. Avant quand même, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, histoire qu'on sache ce qu'est environnement et solidarité ?
Oui, donc on l'a dit, c'est une association. Donc à titre, elle a été créée par la société civile, par des gens qui avaient une vraie idée de ce qu'ils voulaient voir du développement du territoire. Et au fil des années, c'est devenu une association qui essaie d'avoir un impact positif sur l'environnement et un impact positif au niveau social sur notre territoire.
Et ça porte bien son nom. Alors, environnement et solidarité, quel lien faites-vous entre l'environnement et la solidarité, l'insertion ?
C'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de penser à préserver l'environnement si sa situation sociale n'est pas OK. Quelqu'un qui va passer son temps à chercher comment se loger, comment manger, ben, il ne va pas pouvoir être là pour penser à l'environnement.
D'accord, donc c'est parti de ce constat-là.
C'est ça. Et dans l'autre sens, on peut dire que ben, en occupant et en utilisant ces ressources que sont des personnes qui sont en difficulté et sans emploi à un moment donné, et ben là, on arrive par ce biais et en utilisant des dispositifs nationaux comme les dispositifs d'insertion par l'activité économique, à faire en sorte de créer des activités qui soient positives pour l'environnement. Et vu que c'est des activités qui ne sont pas rentables au point de vue économique, au point de vue classique, mais qui sont rentables socialement et sociétalement, ben là, on arrive à faire des choses qui sont positives.
Et comment décririez-vous la culture de l'association et ses valeurs ?
La culture de l'association, c'est la solidarité, comme le dit le titre. Hein. Et on développe parmi les équipes de l'empathie, de l'accueil, de la tolérance, de l'ouverture au monde et aux autres. Voilà, donc c'est un petit peu la base de nos valeurs et de notre projet associatif.
Ça nous fait une belle introduction au sujet du jour. Donc, j'aimerais revenir sur l'histoire de cette association qui a plus de 30 ans. C'était le Naturoscope, créé en fin 1993. Est-ce que vous pouvez nous raconter ses débuts, dans quel contexte il est né ?
Alors, le Naturoscope, en effet, a été créé en fait dans la vallée des Vaches. Et c'était l'idée de quelques militants, enfin quelques ouverts sur la préservation de l'environnement, son évolution. Et donc ça a débuté avec des bénévoles, des tout petits chantiers d'amélioration de l'espace naturel. Et puis ça a pris de l'ampleur, ça s'est développé. On a quitté la vallée de Névage d'ailleurs pour venir sur Briançon. Et puis petit à petit, le concept de à la fois l'insertion et l'environnement s'est développé. Et donc les chantiers d'insertion se sont créés avec plusieurs thématiques, plus seulement l'espace naturel, mais en 2012, c'est la création de la Mirail, donc sur le réemploi des objets, qui a été une grosse étape pour l'association dans son développement. Et puis en 2020, on s'est encore développé sur la thématique du réemploi avec la plateforme de réemploi des matériaux qui se situe à l'Argentière. Voilà, donc, et puis au niveau du siège, ça a encore évolué. On était la petite laiterie à Briançon. Il a fallu qu'on trouve une autre solution et on a fait ce formidable investissement de ce qu'on appelle la ferme et qui maintenant est en fin de réhabilitation. Et on y est installé depuis quelques mois.
Donc c'était les grandes étapes de l'évolution de l'association. Il y a une étape quand même sur laquelle j'aimerais revenir, puisque ça peut parfois porter à confusion lorsqu'on voit le nom de CPIE Haute-Durance, si je ne me trompe pas. CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, c'est un label que vous avez obtenu en 2000. Qu'est-ce que c'est ?
Alors à l'époque, c'était... Ça a été pour les dirigeants d'alors une vraie reconnaissance de leur travail. Parce que pour obtenir ce label, qui est un label national, il faut réaliser un audit, montrer qu'on a une action positive en faveur de l'environnement. Donc l'obtention de ce label, et on a pu interroger les dirigeants de cette époque, a été vraiment un événement. C'est aussi... plus qu'un label, mais c'est un réseau. C'est un réseau d'associations qui permet l'échange de pratiques, qui permet de mutualiser certains moyens, certains projets d'ampleur aussi, certains projets d'ampleur géographique. Je sais qu'à l'époque, il y a eu des projets d'accompagnement au niveau régional par plusieurs CPIE. On nous a souvent appelé CPIE Haute-Durance, alors que c'était pas le nom de notre asso et ça continue encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce label, nous nous en sommes désengagés en 2024.
D'accord. Voilà. Donc vous n'avez plus le label et c'est votre choix ?
Ah oui, c'était totalement notre choix. Parce que cette association nationale à la base ne nous apportait plus ce qu'elle nous apportait par le passé. Et Et le secteur d'activité de l'association associé à ce label, donc, qu'on appelle ACT, accompagnement à la transition écologique, était en perte de vitesse. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et on a voulu limiter un peu l'éparpillement et les coûts en arrêtant ce label.
Justement, pendant ces 30 ans, le contexte dans lequel les activités de l'association étaient dans les années 90 et le sont aujourd'hui a dû évoluer, notamment en environnement et en insertion. Quelle évolution il y a pu avoir sur ces 30 ans sur ces contextes-là ?
Alors oui, on a un peu des écrits, parce que voilà, on est arrivé il y a 10 ans, donc on a vu qu'un tiers de l'évolution de l'association et du contexte. Mais dans tout ce qu'on a pu voir, c'était que, au début, c'était des contrats financés en partie par l'État. Donc c'est des choses qui se mettaient en place, il y avait quand même peu de moyens. Il y avait peu de moyens, mais beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté des bénévoles, d'associations partenaires aussi, qui portaient certains salariés permanents. Et petit à petit, le secteur de l'insertion s'est affirmé et s'est structuré. Et c'est allé crescendo jusqu'en 2014, où là, on avait vraiment vu un basculement avec la loi Hamon, où là, on avait un vrai secteur d'activité, on a eu une vraie convention collective. Ça a marqué quelque chose, la création d'un syndicat national. Donc, à partir de 2014, là, il y a eu vraiment des moyens qui ont été mis sur le secteur de l'insertion, parce que les pouvoirs publics se sont rendus compte que c'était bénéfique. Parce que au lieu de laisser les personnes soit à Pôle emploi, soit au RSA, et ben pour le même coût, ils bénéficiaient d'un emploi, d'une formation, d'un accompagnement social. Donc c'était vraiment bénéfique pour ces personnes et pour les territoires concernés.
Et c'est toujours le cas, c'est resté en place ?
Malheureusement, on assiste là à une dégradation de notre secteur. Là, ça fait quelques années, doucement, c'est en train de basculer. Et c'est le resserrement de tous les budgets de l'État qui se reporte au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local. Et fatalement, nous, on est soumis à la baisse des financements publics. Donc, on est en train de voir notre modèle économique se modifier. Et c'est en ça que, on travaille et c'est le sujet brûlant du moment.
J'allais vous demander comment vous faites face à cela et en quoi ça impacte, vous, vos activités ? Où ça a impacté déjà peut-être auparavant, au moment de l'âge d'or, entre guillemets, et aujourd'hui, avec cette dégradation.
L'âge d'or, on l'a clairement utilisé pour se développer et créer des nouvelles activités, parce que la ressourcerie des matériaux, elles sont arrivées dans cette période, on va dire, fast, même si c'est pas non plus le mot, on n'a jamais roulé sur l'or, mais ça nous a permis de développer des structures importantes maintenant pour le territoire. Là, actuellement, on est en train de s'interroger, de resserrer un peu les activités, de stopper temporairement le développement, parce qu'on a beaucoup d'idées encore pour avoir des impacts positifs. Mais là, il faut qu'on se réorganise, qu'on se réinvente un petit peu pour faire face à ces modifications de modèle économique.
Ça, c'est ce qui concerne l'insertion. Qu'en est-il de l'environnement ?
Les deux sujets sont quand même très liés, comme l'a expliqué Loïc tout à l'heure. Donc l'environnement, on continue bien sûr d'y travailler énormément à travers l'absence de déchets, le réaménagement avec des matériaux durables, des espaces naturels, etc. Donc il y a par contre une thématique qui était la sensibilisation de la population à travers des interventions dans les écoles, dans les entreprises, dans les collectivités locales, etc. Donc c'est notre équipe qui s'appelle en effet ACT, Accompagnement à la transition écologique. Et donc, ce secteur, en effet, est en difficulté par absence de commandes publiques suffisantes. Et donc, il y avait un modèle économique qui ne fonctionnait pas bien. Et donc, on est obligé de prendre des décisions un petit peu radicales. Tu veux l'expliquer, Loïc ?
Ouais, tout à fait, Monique. Donc là, étant donné le contexte, étant donné la situation de notre association, on a pris la décision très difficile de procéder à l'arrêt progressif de ce secteur d'activité. Sous ou quelques mois, enfin 2 ans, le temps de finir les projets en cours, nous allons arrêter cette activité. Et même si on croit fortement à son utilité pour le territoire, bah actuellement, l'asso peut plus permettre d'autofinancer cette activité pour notre territoire. Et on en est vraiment triste parce que c'est 3 salariés qui vont être licenciés économiquement. Et c'est aussi une activité historique de l'association et une activité qui a pu sensibiliser, former un nombre incroyable d'élèves des écoles, de collégiens, de professionnels, mais aussi de techniciens des administrations. On est sûr de son impact positif, mais on ne peut pas se permettre de continuer parce que sinon, ça mettrait toute l'asso en péril.
C'était une partie de vos missions qui a commencé quand, ACT ?
C'était la première. Elle a commencé dès 93.
D'accord. En même temps que les premiers chantiers, comme on disait, nature.
C'est même l'inverse. Ça a commencé avant les chantiers nature.
D'accord. Donc
l'idée
c'est votre
première,
plus ancienne.
C'était vraiment la sensibilisation.
D'accord. Ok. Donc c'est un vrai revirement pour l'association alors.
Alors je dirais pas revirement, hein, parce qu'on est quand même toujours sur le thème de l'environnement, mais c'est un mode d'intervention qu'on ne peut pas en effet pérenniser. Mais ce n'est pas du tout un revirement. Je crois qu'on est toujours aussi environnement et solidarité. Il n'y a pas de problème.
Et pour concrétiser ces missions et mieux comprendre cette situation, je vous propose, juste après la pause musicale, qu'on revienne sur vos missions actuelles et le bilan après ces 30 ans.
Lyrique, ça pèse, j'rappe les oiseaux stèse. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta daisy. Ce matin, j'suis bien dans ma peau, j'ai la pêche, telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaines. Te dis pas frappé par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. J'suis né blasé sans un sou, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. J'suis entré en collision avec mes obstacles. Tourne le pire à la dérision, l'offre en spectacle. Me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse les rires faire mon truc, me suis fixé ce but. Si j'arrive à mi-chemin, je ferai date comme ce tigre tué par un caniche nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. À 2 minutes de la victoire, on peut viser, tomber ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir touché l'horizon? J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que de poils possède un bison. J'enchaîne les brochettes de problèmes, hyper qui t'esquive, crochet. Le revers de la médaille, c'est mon emblème. Tu déconnes avec tes tonnes de projets, ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Viens, j'ai fait le plein de patience, y'a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Qui même me suivent amène les cuivres, les guitares, du pain et de l'huile d'olive. Le seul raccourci m'impose, ne suis pas les panneaux, rien indique la bonne destination. Action, laisse-moi kiffer ma passion.
Et dans le magazine du Midi aujourd'hui, nous parlons de l'association Environnement et Solidarité, une association en faveur de l'environnement sur le territoire du Briançonnais, qui met en œuvre ses actions principalement par la voie de chantiers d'insertion depuis donc plus de 30 ans. Nous sommes avec Loïc Thomas, co-directeur, et Monique Bernard, administratrice. Donc nous sommes revenus sur l'histoire, les évolutions de l'association. Maintenant, on va parler de vos actions aujourd'hui. Donc, quelles sont-elles ?
Alors, aujourd'hui, on a 4 actions concrètes, 4 secteurs d'activité que sont la plus connue, c'est la ressourcerie La Miraille, qui se trouve à Saint-Martin-de-Querrières, avec un magasin à Guillestre aussi. C'est une ressourcerie, donc la majorité de vos auditeurs, je pense, vont connaître, mais je peux rappeler pour les autres. C'est un endroit où on va récupérer les objets dont les gens veulent se séparer, qui ne veulent plus. Ces objets doivent être réemployables. Donc même si on a des ateliers au sein de la ressourcerie, on ne peut pas prendre des objets trop, trop cassés, trop sales et tout ça.
Quand vous dites atelier, pardon, je vous coupe, c'est atelier de réparation.
Atelier de réparation, oui, pardon. Donc, au sein de la ressourcerie, on a un atelier mobilier, donc qui s'apparente à de la menuiserie, et un atelier de réparation de matériel électroménager.
D'accord.
Après, on a d'autres ateliers qui sont la vaisselle, les livres, le sport et loisirs. Donc, on fait beaucoup de choses. On récupère tous les objets domestiques de la maison. Ça va du lave-linge à l'armoire, à la table, des chaises, mais aussi des livres, comme je le disais, de la vaisselle, mais beaucoup de bibelots, de la brocante, des skis, des vélos. Tout ça, ça représente 340 tonnes d'objets récupérés par an, et ça fait autant de déchets évités. Donc voilà, ça c'est notre activité numéro 1. Ensuite, on a une activité qu'on appelle VTM, pour valorisation des territoires de montagne. Là, on a des équipes qui, principalement, vont réaliser des chantiers plutôt en montagne, et ça va être de l'entretien de zones humides, l'entretien de canaux, mais la création et l'entretien de sentiers aussi. On va aussi faire des ouvrages en pierre sèche ou des ouvrages de soutènement en bois, un petit peu de travaux forestiers, toujours en montagne. Et tout ça, c'est fait de manière écologique, avec peu de mécanisation. On essaie d'avoir le moins d'impact sur le milieu qu'on va travailler.
Et pour cela, vous travaillez avec des collectivités, ce sont des commandes ?
Tout à fait, ce sont des commandes des collectivités. Donc, les communautés de communes, les communes, mais aussi les parcs régionaux ou nationaux, donc les Écrins et le Kéra. Mais ça peut être des associations pastorales ou des associations d'irrigation, les fameuses ASA. Au sein de cette activité, on a développé aussi tout un atelier de fabrication, de conception et de fabrication de mobilier en bois. Toujours en lien avec un impact environnemental, donc on fabrique des composteurs, mais ça peut être des toilettes sèches, des abris à vélo et tout autre abri pour protéger du patrimoine, pour être utile au territoire. Et tous ces abris sont réalisés par nos équipes et sont réalisés principalement avec du mélèze et du mélèze de pays.
Et toujours sous une commande, vous ne les préparez pas, vous n'avez pas un point de vente ou...
Non. On n'est pas dans la production, mais dans la réponse toujours aux besoins du territoire. Mmh. Par contre, sur cette activité, si je digresse un peu, on a assisté au fil des années à une modification du mode de contractualisation. Avant, on avait une relation de partenaire avec les communes. On avait des conventions qui étaient signées annuellement avec un certain nombre d'heures à faire. Eux, ils avaient confiance en nous et ils nous disaient, vos équipes, on peut les occuper pendant un certain nombre d'heures dans l'année et ensuite, ils nous passaient commande. Aujourd'hui, ça a changé et on est plus soumis à de la réponse à des marchés et des appels d'offres.
D'accord.
Ce qui complexifie un peu le travail des équipes en termes administratifs surtout.
Oui. Mmh. Donc ça, c'était le deuxième partie de vos missions, de vos activités.
Exactement. Donc on a la ressource sur la Miraille, VTM, pour valorisation des territoires de montagne, et le troisième chantier d'insertion, qui est le plus récent, qui date, comme Monique l'a dit, de 2020, c'est la plateforme de réemploi des matériaux, qui se trouve à l'Argentière, et qui a à peu près le même fonctionnement que la ressource sur la Miraille, sauf qu'on y trouve et on y récupère uniquement des matériaux du bâtiment ou des travaux publics. Donc là, ça va être des portes, des fenêtres, des sanitaires, mais des matériaux pour faire de l'électricité, de la plomberie. On y trouve de quoi faire de la maçonnerie et aussi beaucoup de bois de menuiserie, bois de charpente en toute longueur.
Et la ressourcerie et la matériothèque, on peut dire ça ?
Alors, j'aime pas trop ce terme. Ce que je vois la même différence entre une plateforme de réemploi et une matériothèque qu'entre une librairie et une bibliothèque.
Donc la plateforme de réemploi, c'est très bien, comme ça on clarifie les termes en même temps. Et la ressourcerie sont à disposition du grand public.
Tout à fait, du grand public, mais aussi des professionnels, mais aussi des collectivités.
Vous servez, vous aussi, pour vos activités dans ces lieux-là ?
Tout à fait, et ça c'est ce qu'on a fait pour rénover notre nouveau siège social que Monique a nommé tout à l'heure, donc la ferme, qui se trouve à Briançon, donc pas très loin de la gare, au-dessus du quartier des Toulousaines. Et ce chantier, un chantier d'envergure, donc on a fait 2 ans et demi de rénovation, il a été fait en grande partie à partir de matériaux issus du réemploi.
On pourra revenir sur la ferme tout à l'heure. Je reviens donc sur ces trois premières activités qu'on vient d'évoquer. Ce sont ce qu'on appelle des chantiers d'insertion. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est ? En quoi ça consiste ?
Alors oui, donc c'est un dispositif de l'État qui permet à des personnes qui sont sans emploi depuis une certaine durée de pouvoir bénéficier d'un emploi, on va dire, adapté. C'est un milieu, c'est pas un milieu protégé comme un ESAT, mais c'est un endroit où on va prendre en compte les particularités de chacun pour adapter le travail et essayer de faire naître un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet social. Les gens qui viennent sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont eu un accident de parcours. Mais ça va très vite, ça peut nous arriver à tous à un moment. Et ces personnes viennent parce que, soit initialement, ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Donc ils viennent pour reprendre un projet, peut-être reprendre des études, parce qu'à un moment, ils ont eu une déconnexion dans leur parcours professionnel, ou un handicap. Et c'est souvent le cas maintenant, c'est une perte d'emploi à un âge assez avancé. Et on le sait bien, sur notre territoire, mais nationalement aussi, dès qu'on a plus de 55 ans, retrouver un emploi, c'est compliqué. Donc nous, c'est tous ces profils qu'on accueille et qu'on va pouvoir faire travailler et accompagner dans leurs projets.
Et quel est l'objectif final ? Ils passent par chez vous pendant combien de temps déjà ?
Alors, c'est des contrats de 7 mois, 6-7 mois, renouvelables jusqu'à 24 mois. Ça, on est limité par... par la loi et le code du travail. L'objectif, c'est de ressortir de chez nous avec quelque chose en plus. Donc, soit ça va être une nouvelle formation, des fois c'est un emploi, un CDI, avec les entreprises du territoire, avec qui on travaille main dans la main. Mais ça peut être, au-delà de ça, une avancée sur la santé, une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, parfois un accompagnement à la retraite. Mais c'est très très large et ça dépend des freins qu'ont les personnes à l'entrée dans notre structure.
Et donc concrètement, ils viennent, ils travaillent dans des postes dans ces trois chantiers possibles et vous les accompagnez aussi administrativement en parallèle ?
Oui, alors c'est pas forcément un accompagnement seulement administratif, mais on emploie des accompagnatrices et accompagnateurs socioprofessionnels qui, lors d'entretien, vont essayer de construire un projet et d'aider nos salariés dans leur démarche. Donc, ils ne font pas tout. Des fois, c'est juste des liens avec des acteurs qui sont déjà sur le territoire. Mais des fois, ça va être de la motivation, d'avoir un peu des clés pour faire avancer les projets. Et l'autre face de cet accompagnement qu'on propose, c'est nos chefs d'équipe qu'on appelle des encadrants techniques. Eux, ils ont une double mission, c'est de faire tourner une activité, parce qu'on est des activités économiques, il faut que ça marche, il faut qu'on fasse du tonnage, qu'on rentre des chantiers. Mais eux, ils sont chargés de faire ça tout en s'adaptant au public qu'on embauche. Donc de s'adapter aux freins à l'emploi, aux potentiels handicaps, aux potentiels problématiques. Du coup, c'est assez riche, mais assez prenant. C'est un travail qui est pas facile et je retire mon chapeau.
Ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'au cours de leur parcours chez nous, ils sont amenés aussi à explorer un petit peu le monde du travail et à faire des stages dans les différentes entreprises du territoire. Et pour nous, c'est important que cette démarche se réalise. Et on remercie d'ailleurs toutes les entreprises qui volontiers accueillent pour quelques semaines nos salariés pour qu'ils découvrent un petit peu ce boulot. Éventuellement, d'ailleurs, ça peut-être déboucher ensuite, puisque l'employeur et le salarié se connaissent, se rendre compte que l'employeur, bah, il peut être correct, sympa, et puis le salarié, il est capable de plein de choses, et donc cette rencontre peut permettre par la suite des embauches, et c'est quand même un peu notre, notre horizon, que les personnes puissent ensuite retrouver le monde du travail ordinaire, je dirais.
Et j'imagine qu'après 30 ans en plus d'existence, vous devez avoir développé des partenaires réguliers pour l'accompagnement de ces personnes ?
Oui, tout à fait. On a plusieurs types de partenaires. Déjà, on a nos partenaires financeurs, donc que sont principalement l'État et le département, avec qui on a des super relations, on bosse vraiment main dans la main. On a des partenaires plutôt institutionnels sur le territoire. Ben, c'est les missions jeunes. C'est Cap Emploi pour le handicap, mais c'est aussi France Travail à qui on travaille beaucoup parce que c'est eux qui vont nous orienter nos futurs salariés. Mais on bosse aussi avec toutes les associations qui peuvent aider d'un point de vue santé, administratif ou autre. Dans nos partenaires, on a aussi des centres de formation parce que un des gros freins à l'emploi et une des clés pour obtenir un emploi, c'est d'être formé. Et sur notre territoire, on ne le sait peut-être pas assez, mais on dispose de beaucoup de compétences et beaucoup de centres de formation. Et ensuite, c'est les entreprises dont parlait Monique, et on a des acteurs qui, avec qui on est vraiment liés, et on en développe toujours plus.
Ça représente combien de personnes qui passent dans vos chantiers d'insertion ?
Alors, si on fait une photo à l'instant, on est 23 salariés permanents, et on a à peu près entre 60 et 65 salariés en parcours d'insertion.
En ce moment ?
C'est
pas à l'année, c'est en ce moment.
C'est en ce moment. On peut considérer, vu le début, l'arrêt des contrats, qu'on accompagne entre 100 et 120 personnes par an.
Donc là, on a fait tour de... On avait dit qu'il y avait 4 actions. On a vu l'Amirail, la plateforme de réemploi, VTM. Et donc, il y a cette fameuse quatrième action accompagnement transition écologique, ACT. On en a déjà un peu parlé. Peut-être un dernier mot dessus pour conclure vos 4 grandes missions.
Oui, c'est donc cette activité dont on a parlé représentait une part importante de l'asso et une part importante de sa visibilité sur le territoire en termes d'impact environnemental. Parce que de nombreux écoliers ont vu passer nos animatrices, nos chargées de mission. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les projets en cours et dans les derniers projets de ce secteur d'activité, on a un projet sur la low-tech, sur la sensibilisation et le développement de la low-tech sur le territoire. Donc il ne faut pas hésiter à nous suivre sur ce sujet-là. Il y aura beaucoup d'événements organisés sur le territoire dans les 2 prochaines années.
À suivre donc. Et donc cette association Environnement et Solidarité, comment fonctionne-t-elle ? Parce que là, on a parlé de vos actions sur le terrain, mais il y a toute une équipe derrière. Vous disiez, il y a 26 salariés ?
Alors là, 23 salariés permanents.
23 salariés permanents, pardon. Et derrière, il y a un conseil d'administration. Monique, vous en faites partie. Mmh. Comment ça fonctionne ?
Alors, en effet, l'association s'est vraiment professionnalisée au cours des années, mais ça reste une association avec un conseil d'administration, donc. Alors, on s'appuie beaucoup sur nos équipes, hein. Notre directeur et puis les responsables des différents sites qui nous font plein de propositions. Alors, ceci étant, donc, on est 6 administrateurs, administratrices. On a choisi, il y a maintenant quelques années, d'être en collégialité, c'est-à-dire c'est un conseil d'administration collégial. Donc, en effet, on n'a pas de président, on n'a pas une tête d'affiche, mais nous sommes les 6 administrateurs, administratrices très présents. On se réunit régulièrement et puis bien sûr avec les équipes et on rencontre aussi les salariés régulièrement. On se présente un peu comme pouvant soutenir un peu aussi nos équipes, parce que la situation n'est pas toujours facile. Il peut y avoir, comme dans toute entreprise, des difficultés. Et donc, nous, on est là aussi pour les appuyer, pour les soutenir, essayer de trouver avec eux des solutions. Voilà. Et donc, on est une association, donc tout un chacun peut adhérer. C'est vrai que ça peut permettre à tout un chacun d'avoir une action concrète, enfin, de soutenir des actions concrètes vis-à-vis de l'environnement et de l'insertion. Donc, notre Assemblée Générale annuelle, pour vous dire la dernière, les grandes thématiques qui ont été abordées, c'est l'équilibre de l'association, c'est la coopération entre les différents secteurs d'activité qu'on vous a décrit tout à l'heure. C'est important qu'il y ait vraiment une coopération entre ces différents secteurs, et ce qui permet aussi d'optimiser sûrement le fonctionnement et les synergies. Le partenariat, pour nous, c'est fondamental. D'être entouré de partenaires sur le territoire. Et puis l'innovation, parce que comme le disait Loïc, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire. On est à l'écoute du territoire et on est amené à innover aussi bien sur l'accompagnement des salariés que sur la concertation, que sur la préservation du territoire.
Oui, et on lit dans votre projet associatif que vous voulez justement aider à faire émerger des idées, des innovations. Vous voulez être une association force de proposition. Comment vous mettez cela en œuvre concrètement, déjà en interne, mais aussi en externe?
Alors, toutes nos activités sont nées d'un besoin du territoire. C'est soit d'abord des idées de nos bénévoles ou de nos salariés, qui ensuite sont confrontés à la réalité du terrain. Donc on fait de nombreuses réunions avec les habitants, avec les professionnels et aussi avec les collectivités pour déterminer si nos idées sont en lien avec les besoins réels du territoire. Si je prends un exemple, la ressource sur les aides matériaux, parce que c'est le plus récent, est née d'un constat, c'est qu'on en avait de plus en plus de matériaux de construction à la ressourcerie. Et on le voit, quand on passe à la ressourcerie, on est un peu à l'étroit. Donc si on rajoutait des matériaux, là, ça devenait un endroit assez improbable, fait de bric-à-brac. Donc de là, on s'est dit, c'est peut-être un problème pour le territoire. Donc là, on a interrogé les collectivités qui nous ont dit, en déchetterie, c'est l'enfer. Donc à ce moment-là, on a réuni des acteurs, des pros, des habitants. En réunion, on a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et pour essayer d'inventer un modèle. Il y a une collectivité qui nous a suivis, qui est la communauté de communes du Pays des Écrins, qui a trouvé des sources de financement pour nous rémunérer pour une étude. Une étude action qui nous a permis d'embaucher une chargée de mission qui est allée sur tout le territoire interroger l'ensemble des gens, qui a fait des permanences en déchetterie pour voir la réalité du besoin. Et ce qui nous a amené, avec toutes ces réunions et toutes ces concertations, à dire la solution, c'est de créer un site, un lieu où on pourrait venir déposer, venir acheter, et on aurait des équipes qui valoriseraient ces matériaux. C'était important sur cette activité parce qu'on n'a pas de modèle, il y a très peu d'activités comme celle-ci en France, et on est la première sur la région PACA.
Oui, donc vous avez du tout innové justement, tout créé vous-même.
C'est ça, et on continue, on se réinterroge toujours sur le modèle, sur comment faire mieux, comment avoir un meilleur impact, et pour... Au final, réduire les déchets finaux dans les déchetteries de notre territoire, ce qui va réduire aussi le coût pour la collectivité.
On va bientôt arriver à la fin de cette émission. J'aimerais quand même prendre le temps de faire un bilan de ces 30 ans. Ce n'est pas rien pour une association, quand même. Comment vous allez? On en a un petit peu parlé au début de l'émission, mais pour conclure cette émission.
On ne va pas se mentir, c'est pas... l'heure n'est pas à la fête. Donc, on est devenu au fil du temps une association assez importante. Donc, on le rappelait tout à l'heure, plus de 80 salariés disséminés sur tout notre territoire d'intervention qui est la Haute-Durance et les trois communautés de communes, le Briançonnais, les Écrins et le Guiès-Trois-Quéra. Actuellement, on est en phase de réflexion pour trouver des nouvelles sources de financement et peut-être pour modifier aussi notre relation avec nos donneurs d'ordre, d'être plutôt force de proposition et d'anticiper les besoins. Donc là, on est en train de créer, de réfléchir pour venir et être force de proposition pour le territoire, pas en nous développant, mais en travaillant encore mieux et encore plus proche des communes et de tous nos partenaires.
Alors la situation en effet est complexe à la fois. Bon, l'environnement financier économique d'aujourd'hui n'est pas formidable et donc on en subit les conséquences aussi. Mais en même temps, on a vraiment un grand renouveau, un grand enthousiasme avec l'installation dans nos nouveaux locaux.
Oui, la ferme. Donc, revenons-y à la ferme.
Voilà, la ferme. Donc qui a fait l'objet depuis maintenant, je crois, 3 années de travaux par nos équipes. Hein, donc ça a été un chantier d'insertion en soi, avec des matériaux de réemploi, etc. Et même si de l'extérieur aujourd'hui, ça paraît encore un petit peu bricolo, un peu en chantier, l'intérieur est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'avec tous ces matériaux de réemploi, beaucoup d'imagination, beaucoup de goût et de nos équipes, on a des bureaux d'une qualité extraordinaire et tout le monde est réuni là. Enfin tout le monde, c'est-à-dire tout le service, le back-office, hein, toute la direction, la comptabilité, la communication, etc., etc. Et puis nos équipes de chantier, VTM, donc sont maintenant très bien installées, très très bien installées dans ce beau bâtiment qui est notre siège. Donc ça, c'était vraiment un nouveau souffle aussi de se trouver dans ce bâtiment.
Donc ça inaugure la suite. Oui, Loïc, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, et puis si on veut parler de ce qui va arriver, donc on a quelques projets qui vont naître, être travaillés cet automne et naître début 2026. On a déjà une grosse nouveauté pour notre ressourcerie, notre plateforme de réemploi, c'est la mise en place d'une plateforme de vente en ligne pour amener le réemploi à tous les habitants du territoire sans qu'ils aient à se déplacer. Donc là, on pourra avoir presque tous les produits disponibles et avec possiblement un service de livraison pour éviter les déplacements aussi sur le territoire. Donc ça va être une grosse, grosse nouveauté pour nous et pour l'ensemble des ressourceries aussi. On fait un peu figure de précurseur à ce niveau-là en termes de ressourcerie 2.0.
Et vous savez à quelle échéance ?
On espère mettre cette plateforme en place pour le 1er janvier 2026.
2026. On est à 30 ans. Est-ce que vous auriez une vision ? Comment vous verriez l'association dans 30 ans ?
Alors, je pense qu'on a tous une vision, on se projette, on a plein d'idées, plein de nouvelles activités, plein de nouveaux besoins à couvrir. Mais si j'aurais une vision un petit peu impactante, c'est de plus exister. Parce que notre existence, elle est soumise au fait qu'il y a des problématiques sociales et des problématiques environnementales. Donc si un jour on est amené à plus exister, mais avec choix, c'est qu'il n'y aura plus de chômage, c'est qu'il n'y aura plus d'exclus, et c'est que l'ensemble de la société sera imprégné de ces actions en faveur de l'environnement.
Monique, vous vouliez dire quelque chose ?
L'association peut aussi évoluer vers d'autres formes, peut-être d'entreprise, de scope, je ne sais pas, peut-être que ça sera nécessaire à un moment, puisque quand même l'activité économique productive qu'on a de réemploi, par exemple, le territoire en aura toujours quand même besoin. Donc, peut-être qu'il y aura des évolutions, en effet, dans la structure. Voilà, adapté au temps et aux circonstances.
Et donc, vous êtes une association qui a réussi à se pérenniser sur autant d'années. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à d'autres associations ?
Un conseil, c'est assez dur. Et ça va paraître un petit peu simpliste, mais... clairement, c'est d'être résilient, même si on nous demande beaucoup d'être résilient. Des fois, on en a un peu marre, mais c'est ça, c'est toujours s'adapter, être flexible et surtout se parler. Donc, on a vu qu'on avait un conseil d'administration collégial, mais c'est pareil avec les salariés. On essaye de se parler, de parler au territoire. Et même si on a certains problèmes à certaines périodes, comme dans toutes les assos, c'est d'essayer d'en parler et trouver des solutions ensemble, ne pas rester tout seul dans nos problématiques.
Merci Loïc Thomas et Monique Bernade. Pour clôturer cette émission, une dernière rapide question. Comment suivre l'association? Si on veut adhérer, vous parliez d'adhésion tout à l'heure, Monique, comment on fait?
Alors principalement, c'est sur notre site internet, donc environnement et solidarité toutattaché.org, O-R-G, où vous pouvez adhérer, vous pouvez
s'inscrire
recevoir,
à la newsletter.
C'est voilà. Ça, s'inscrire à la newsletter. Mmh. Et suivre sur nos réseaux sociaux, donc principalement Facebook, mais aussi Instagram, LinkedIn. Et venir nous visiter sur nos sites qui sont ouverts au public.
Merci à tous les deux.
Eh ben, merci à toi.
Merci, merci.
Et merci auditeurs et auditrices pour votre écoute. À bientôt sur Fréquence Mistral.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est des Fréquences Mistral.